Bonjour à tous pour cette dernière. On arrive au terme de notre parcours de l'Apocalypse. Après avoir traversé un certain nombre de visions, surtout des visions de combat. Et puis, là, pour cette toute fin, les chapitres 21 et le début du chapitre 22, on arrive dans une phase un peu d'apaisement. Les combats sont passés. D'ailleurs, si vous avez lu. On a travaillé le chapitre, je crois, 19 avec le millénium la dernière fois, ou chapitre 20. Je vous en ai donné une, mais voilà, je vous en donne une. C'est bon. La victoire contre le mal a été définitivement remportée. Le jugement dernier a eu lieu. La mort a été jetée dans les temps de feu, etc. Et donc, qu'est-ce qui reste ? L'idée, c'est quel est le type de création qui reste après ces combats, ces victoires, ces jugements. Nous n'irons pas aujourd'hui jusqu'à la toute fin de l'Apocalypse, puisque vous vous rappelez que la première fois, pour la première séance, nous avions vu le prologue et l'épilogue, qui viennent en quelque sorte prendre en sandwich l'ensemble de la série des visions. Donc là, c'est la dernière vraiment des visions, la Jérusalem céleste, qui a eu un grand succès dans l'histoire de l'art. J'entendais quelqu'un qui disait « Ah ben d'habitude, elle est carrée ». Oui, on verra, parce que là, on nous en donne le plan. Sur l'image que je vous ai mis et que nous commenterons, elle est un petit peu ovoïde. Mais peu importe. On va essayer de voir qu'est-ce que veut nous dire. Je dirais... c'était presque plus clair la visée de l'auteur quand nous étions dans des combats. Parce qu'il dénonçait des choses, il dénonçait l'Empire romain et son idéologie, il dénonçait les valeurs qui sous-tendaient cet empire, il dénonçait ceux qui étaient timorés, et qui collaboraient ou essayaient d'avoir les avantages de l'Évangile en même temps que les avantages de l'Empire. Donc c'était plus clair parce qu'on voyait contre qui il parlait. Maintenant, il est dans une page blanche.
Et... Oui, mais c'est toujours pareil. Quand on pense au paradis, on ne sait pas comment l'imaginer, alors que l'enfer, on n'a aucun problème.
Exactement, voilà. Hein. On voit bien, quand on regarde les tympans des cathédrales, on a l'air de pas mal s'ennuyer au paradis. Ils sont tous en rodognon, en train de chanter le même psaume depuis longtemps, alors qu'il y a des choses beaucoup plus intéressantes qui se passent en enfer. Mais ça, c'est classique. Nous allons donc lire ce texte que vous avez sous les yeux. Comment est-ce qu'on va le lire ? Écoutez, on va lire paragraphe par paragraphe, mais comme il n'y a pas de paragraphe, ça va être difficile. Écoutez, vous, quelqu'un lit, passe le relais à la personne suivante quand il estime qu'il est arrivé au bout d'une unité de sens, voilà, que quelque chose va rebondir. Qui veut bien commencer ? Merci beaucoup.
Alors je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, prête comme une mariée qui s'est parée pour son mari. J'entendis du trône une voix forte qui disait « La demeure de Dieu est avec les humains. Il aura sa demeure avec eux, ils seront ses peuples, et lui-même, qui est Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Celui qui était assis sur le trône dit « Je fais tout nouveau ».
On enchaîne ? Ah, vous n'avez pas ce texte ?
Non, il y a une partie qui manque.
Une partie qui manque ?
Oui, il y avait une partie qui manquait.
Bon. Si vous l'avez. Nous en sommes au verset 5. 5a. Entendu. Allez-y. Oui, 5a.
Celui qui était assis sur le trône dit. je fais tout nouveau. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et vaines. » Ces paroles sont certaines.
Ça nous réveille. Hein. Non, c'est intéressant que je me permets d'interrompre. Le fait qu'on réagisse tout de suite, hein, parce qu'on voit bien que s'il y a bien un livre de la Bible qui a la conviction que ses paroles ne sont pas vaines, c'est bien l'Apocalypse.
Et il me dit, c'est fait. C'est moi qui suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu et lui sera mon fils. Et pour les lâches, les infidèles, les êtres abominables, les meurtriers, les prostituées, les sorciers, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang brûlant de feu et de soufre. C'est la seconde mort.
Qui veut bien continuer ? Allez-y.
Puis un des sept anges qui tenait les sept coupes pleines des sept derniers fléaux vint parler avec moi. Il me dit, « Viens, je te montrerai la mariée, l'épouse de l'agneau. » Il me transporta par l'esprit sur une grande et haute montagne et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle avait la gloire de Dieu. Son éclat ressemblait à celui d'une pierre précieuse, une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et sur les portes, 12 anges. Des noms y étaient inscrits, ceux des 12 tribus des Israélites. À l'est, 3 portes, au nord, 3 portes, au sud, 3 portes, et à l'ouest, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondations. Elle portait les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui parlait avec moi avait une mesure, un roseau d'or, pour mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré, sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille, 144 coudées, d'une mesure humaine qui était celle de l'ange. La muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondations de la muraille de la ville étaient ornées de toutes sortes de pierres précieuses. La première fondation était de jaspe, la deuxième de saphir, la troisième de chalcédoine, la quatrième d'émeraude, la cinquième de sardonyx, la sixième de sardoine, la septième de chrysolite, la huitième de béryl, la neuvième de topaze, la dixième de chrysoprase, la onzième d'hyacinthe, la douzième d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles, chacune des portes était d'une seule perle, la grande rue de la ville était d'or pur comme du verre transparent.
Qui veut bien continuer ?
Je n'édifie pas de sanctuaire, car le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, est son sanctuaire, ainsi que l'agneau. La vie n'a besoin ni de soleil, ni de lune pour briller. Les nations marcheront à sa lumière.
Car la gloire.
Car la gloire, l'éclair et sa lampe, c'est l'agneau. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ces portes ne se fermeront jamais pendant le jour, or là il n'y aura pas de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'y entrera jamais rien de souillé, ni faiseur d'abomination ou de mensonge. Mais ceux-là seuls qui sont inscrits dans le livre de la vie de l'agneau.
Monsieur, oui. Vous y étiez signalé.
Oui. Il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, sortant du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la grande rue de la ville et sur les deux bords du fleuve, un arbre de vie produisant 12 récoltes et donnant son fruit chaque mois. Les feuilles de l'arbre sont pour la guérison des nations. Il n'y aura plus de malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses esclaves lui rendront un culte. Ils verront son visage et son nom sera sur leur front. La nuit ne sera plus et ils n'auront besoin ni de la lumière d'une lampe, ni de la lumière du soleil, car c'est le Seigneur Dieu qui les éclairera et ils régneront à tout jamais.
Merci beaucoup. Vous voyez que c'est une vision dans laquelle il n'y a aucun combat, contrairement à ce qu'on a vu dans les chapitres précédents. On va se demander, on va essayer d'analyser les choses, parce que beaucoup de renseignements nous sont donnés, du point de vue d'abord des lieux. Où est-ce que se déroule ce ou ces récits, si on en voit plusieurs? Où est-ce que ça se passe? Dans quel endroit de l'univers ça se passe?
À Jérusalem? Non.
Alors, vous dites ça se passe à Jérusalem.
On parle d'une Jérusalem nouvelle.
On parle d'une Jérusalem nouvelle, oui. Mais alors, est-ce que la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que la Jérusalem nouvelle est à Jérusalem?
Non.
Puisqu'elle descend du ciel. Vous voyez? C'est intéressant. C'est-à-dire que là, le nom de Jérusalem est emprunté, comme on avait d'ailleurs emprunté le nom de Babylone pour désigner la ville impie, la grande prostituée. Donc là, pour le coup, Jérusalem nous donne une indication d'espérance, de gloire, mais pas forcément une indication géographique, puisqu'elle descend du ciel, hein, cette Jérusalem.
Et la première terre avait disparu.
La question, c'est la première terre avait disparu. C'est où est-ce qu'elle se pose, hein.
Mais c'est peut-être pas une indication géographique.
Oui.
Parce que au verset 3, la demeure de Dieu est avec les humains.
Oui.
Et je dirais que la nouvelle Jérusalem, elle est avec les humains, elle est descendue parmi les humains.
Oui, merci beaucoup. Oui, c'est tout à fait intéressant parce que ça correspond exactement à ce qu'on va retrouver à la fin du texte. C'est que on nous dit où va habiter, où va habiter Dieu. Hein, alors après, il faudra voir qui c'est, parce qu'avec Dieu, il y a l'agneau, il y a du monde. Mais c'est une indication qui est à la fois, précise et en même temps complètement diffuse. C'est dans la Bible hébraïque, on parlait beaucoup de la Shekinah, c'est-à-dire l'endroit où Dieu fait son habitation. Là où Dieu vient habiter avec, enfin, là où se trouve la présence. On pourrait presque dire, dans une logique ultérieure catholique romaine, la présence réelle. Où est-ce que ça se trouve? Dans la logique hébraïque de la, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, Dieu habite dans le Saint des Saints, ou plutôt, il n'habite pas dans le Saint des Saints. L'arche de l'Alliance, qui est censé être dans le Saint des Saints, est son marchepied. C'est-à-dire que quand Dieu vient parmi les humains, c'est là qu'il pose c'est la dernière marche de son escalier. C'est là qu'il atterrit, exactement. Donc c'est extrêmement précis dans la logique vétérotestamentaire. Là, on nous montre, avec les mêmes termes, là où Dieu va venir habiter, on l'appelle même Jérusalem, donc ça peut faire penser au temple de Jérusalem, il y a plein d'autres choses qui nous font penser au temple de Jérusalem, sauf que la précision géographique, c'est, comme vous le dites très bien, avec les humains. C'est-à-dire, à peu près n'importe où il y a des humains.
Et sans sanctuaire.
Oui, alors, on est... Oui, ça vous nous emmenez où, là? Quel verset?
22.
Chapitre, oui, alors verset.
Je n'y vis pas sanctuaire, car le Seigneur est son sanctuaire.
Oui, donc au verset. Chapitre 21, verset 22. Dans cette ville qui nous est présentée à grand renfort de détails minéralogiques, on constate qu'il n'y a pas de sanctuaire, et on nous dit même pourquoi il n'y a pas de sanctuaire. Parce que ça sert à quoi normalement sanctuaire? Sert à quoi un sanctuaire dans le cadre d'un culte?
Ben,
C'est là où on met les offrandes.
Un lieu réservé, on n'y va pas.
Un lieu qui est plutôt réservé, pourquoi est-ce qu'il est réservé?
Pour les prêtres et le Saint des Saints.
Parce que c'est le Saint des Saints, il est réservé pour Dieu, c'est là que Dieu habite. Voyez. Donc on est bien dans la même logique que vous avez signalée. Du fait que l'habitation de Dieu est maintenant complètement délocalisée et est simplement parmi les humains, il n'y a plus besoin de marquer d'une architecture particulière un lieu où Dieu serait plus réputé être que 100 mètres à côté. Hein. Il y a une sorte d'infusion générale de Dieu parmi les humains dans l'imaginaire de cette vision. Hein. Il est partout où il y a de l'humain, Dieu est parmi eux. Oui, quelle autre indication on a de l'ordre de la géographie, de la topographie?
Il y a un fleuve.
Où est-ce qu'il y a un fleuve?
Il sort du trône.
Oui. Et vous nous dites le verset pour que tout le monde puisse y aller.
Je ne sais pas où il est.
Verset 1 du chapitre 22, oui. Il y a un fleuve d'eau de vie qui sort du trône de Dieu et de l'agneau. Il nous fait penser, donc c'est à la fin, hein, début oui. Du dernier paragraphe. Il nous fait penser à quoi ce fleuve? Où est-ce qu'on a déjà vu des fleuves qui sortaient de...
La Genèse.
La Genèse, exactement. Hein, on pourrait repérer tous les parallélismes qu'il y a entre le récit de Genèse 2 et ce récit. Il y a un fleuve qui est un fleuve d'eau de vie, qui, comme celui de la Genèse, qui vient irriguer le jardin. Puisque nous sommes sur ce fleuve...
Il y a un arbre de vie aussi.
Oui.
Donc c'est encore l'Éden qui se profile.
C'est encore l'Éden qui se profile, exactement dans le verset 2. Oui. Et puis c'est l'Éden qui a rattrapé un certain nombre d'autres visions, puisqu'on nous dit que sur les deux bords du fleuve... c'est intéressant, on se demande comment le représenter. Hein. L'arbre de vie est sur les deux bords du fleuve. ça fait rire madame.
Il y en a un sur le côté.
Bah non, on ne nous dit pas qu'il y a deux arbres de vie, on nous dit qu'il n'y en a qu'un. Mais il est sur les deux bords du fleuve. Ça, c'est une sorte d'arche d'alliance, c'est un arbre qui fait pont peut-être, oui. Mais quelle est sa particularité à cet arbre?
Les mois, il produit.
Tous les mois, il produit, oui. Oui, et ça vous fait penser à quelque chose ailleurs dans l'arbre du bien et du mal. Oui, mais l'arbre du bien et du mal, il sert pas à la guérison des nations. Tandis que celui-ci, il sert. Oui, bah, du coup, ça serait l'arbre de vie, celui qui apporte la vie. Hein. Allez, on a juste.
C'est Jérémie, il n'y a pas.
Ah, vous approchez, vous y êtes presque, c'est chez Ézéchiel. Chez Ézéchiel, sortant du temple nouveau qui nous est décrit dans Ézéchiel 40, il y a un arbre qui d'abord donne 12 récoltes, donc une par mois, et un arbre qui sert pas à la guérison des nations, il coule jusqu'à la mer morte et il revitalise la mer morte. Mais il y a ce même aspect de cette eau qui est une eau thérapeutique. Une eau qui va redonner de la vie là où il y avait de la mort. Hein. Donc, effectivement, il y a un écho de Genèse 2, mais un écho de Genèse 2 au travers d'Ézéchiel, avec cet arbre qui coule du... Et d'une certaine façon, la vision de cette Jérusalem nouvelle, elle est très très reprise de la vision du temple d'Ézéchiel, à partir du chapitre 40. Oui.
Ouais, une question.
Oui.
Qui est un peu en dehors. Est-ce que les Juifs qui liraient ça, qui lisent ça, adhèrent à ça, enfin, comprennent ça?
Alors, je ne sais pas s'ils comprennent, mais ils peuvent comprendre. Parce que c'est pétri de visions récupérées dans leurs écritures. En Ézéchiel en particulier, mais on le disait aussi en Genèse 2 et dans d'autres. Là où ils pourraient comprendre sans forcément adhérer, c'est l'idée que que la localisation géographique précise de la présence de Dieu est pulvérisée, puisque Dieu est partout. On l'a bien encore vu hier, avec tout, vous avez entendu tous les commentaires autour de la visite de Trump au mur des Lamentations, hein, qui est réputé être une des fondations de l'ancien temple de Salomon. Tous les journalistes vous ont dit que c'était le lieu le plus saint du judaïsme. Après avoir dit que le lieu le plus saint de la chrétienté, c'était le Saint-Sépulcre. Je ne me sentais pas chrétien à ce moment-là. Mais il y a cette idée très très forte et qui était relayée abondamment, que le sacré est forcément localisé quelque part. Or, précisément, c'est là où des juifs pourraient comprendre ce texte-là, mais pas forcément y adhérer, c'est que ça enlève tout privilège à Jérusalem, puisque Jérusalem est, est pulvérisée, non pas pour sa destruction, mais pour son extension à l'échelle de toute l'humanité. C'est-à-dire partout Dieu est présent. Et
c'est pas un texte qui parle du Messie.
Non.
C'est un texte qui parle d'un monde nouveau.
Oui, exactement. Ouais.
Ça, les Juifs pourraient le partager, ça.
Oui. Ouais. Sauf que ce serait au prix, je vais le dire avec un gros raccourci, mais au prix de devenir chrétien. C'est-à-dire au prix d'accepter l'universalisation du salut sans aucune condition. Ce qui est le propre de la bonne nouvelle, de l'évangile, de l'accueil universel de Jésus pour quiconque, et puis l'universalisme paulinien qui est développé dans les épîtres de Paul. Donc d'une certaine façon, on a dit dans un langage apocalyptique, l'universalité du salut. Mais enraciné dans ses racines juives, puisque vous voyez bien qu'il est fait allusion aux 12 tribus d'Israël, au verset 12, et qu'il y a une quantité d'images qui sont reprises de l'Ancien Testament. Donc voilà, pour répondre à votre question, ils pourraient le comprendre, mais pas forcément y adhérer. Ou alors, il faudrait qu'ils adhèrent à ce genre particulier de judaïsme qu'est le christianisme. vous voyez bien l'enjeu. C'est important comme question, parce que après 20 siècles d'histoire dramatique, etc., entre judaïsme et christianisme, et puis les premiers siècles ont été aussi des affrontements assez sérieux, on a l'impression qu'il s'agit de deux religions différentes. Or, le judaïsme rabbinique, qui est né après la destruction du temple de Jérusalem, est frère jumeau du judaïsme chrétien, donc du christianisme, qui s'est développé dans le même temps, à la fin du 1er siècle. Donc on a finalement deux frères jumeaux qui sont issus de la même souche, qui est une souche de la religion israélite ancienne. Un qui a pris le pli d'un exclusivisme avec le rabbinisme, et un qui a pris le pli de l'universalisme. Monsieur.
Oui, c'était à propos de localisation de la Nouvelle-Jérusalem, l'aspect éclairant, voire solaire, ne viendrait-il pas indiquer que justement la Nouvelle-Jérusalem serait... peut-être pas à la place du soleil, mais aurait une dimension solaire et donc éclairante.
Oui.
C'est dit presque comme tel.
Ouais. Oui. Oui, elle est tellement lumineuse. En fait, c'est la présence de Dieu qui est tellement lumineuse qu'il n'y a pas de nuit. Puis ça a un certain nombre de conséquences. Ça dit aussi une entrée dans l'éternité, hein, dans la vision. Puisque le récit biblique avait commencé par « il y eut un soir ». Il y eut un matin, premier jour. C'est-à-dire que l'histoire humaine commence à partir du moment où des jours se succèdent, où il y a des soirs et des matins. Et puis là, on nous dit, il n'y a plus de soir, plus de matin. Donc, ça nous raconte, de façon symbolique, le passage à une éternité. On n'est plus dans un compute du temps cumulable, puisqu'il fait toujours jour. Alors ceci, on aurait pu se dire, il fera toujours nuit. Là, le choix, c'est qu'il fasse toujours jour. Puis, vous voyez bien comment c'est quelque chose qui est absolument, absolument positif. Vous avez raison de dire, est-ce que c'est la Jérusalem qui brille ? Faut se demander ça. Non, regardez, verset 23, c'est la gloire de Dieu qui éclaire partout. Donc la ville est en permanence dans la lumière parce que la gloire de Dieu éclaire partout dans cette vision. Ouais. Continuons encore un petit peu sur les localisations. On a fait beaucoup de parallèles légitimes avec Genèse 2. Où est-ce que se passe Genèse 2, 3 ? Alors vous dites en Mésopotamie, ça c'est parce que ouais, on a vu le Tigre et l'Euphrate. Mais dans quel type de dans quel type d'environnement le récit, qu'est-ce qu'il nous dit ? Dans un jardin. On commence dans un jardin et on finit où l'histoire ? Si on prend la Bible comme un macro-récit, un grand récit, on termine où ? Dans une ville.
Oui.
On passe du jardin à la ville. Intéressant. Alors même que tout au long de l'histoire biblique, comment est-ce que la ville est vue ?
Très mal.
Vous avez des exemples ? Il y a Sodome, il y a Sodome et Gomorre, il y a Ninive, il y a Babylone, même Jérusalem. La ville, c'est toujours le lieu de perdition. Et puis là, d'un seul coup, à la fin, on a un retournement, c'est la ville qui est lieu de salut. Alors c'est une ville avec des espaces verts, hein, puisqu'il y a l'arbre là qui est sur les deux rives. C'est Jacques Ellul qui avait fait tout un livre, je crois, et qui avait donné lieu à une exposition qui montrait comment on pouvait suivre le fil du destin de la ville au travers de la Bible, et où vous avez, y a Babel aussi, qu'on n'a pas mentionné, Babel, Babylone évidemment, toutes ces villes qui sont condamnées comme lieu de perdition, mais en même temps, c'est pas un retour bucolique à une nature sauvage qui est prônée, mais c'est une ville transformée, exactement, une ville vivable, une ville renouvelée, exactement, qui est visée.
Et puis, elle n'est pas faite en n'importe quoi.
Alors, écoutez, vous nous emmenez là. Alors, allons voir les versets 9 à 22, à 27, qui nous, ou à 20, oui, plutôt à 22, 21, qui nous dit, qu'est-ce qu'on tire ? Alors, il y a, concernant les matériaux, vous dites, elle n'est pas en n'importe quoi. Qu'est-ce que ça nous dit, tous ces matériaux ? Verset 19, 20, 21. Des matériaux très, très précieux, ouais. Ouais.
Qui ne sont pas des matériaux de construction.
Qui ne sont pas des matériaux de construction, ouais.
Des pierres précieuses.
Ouais.
Il y a beaucoup d'or.
Il y a beaucoup d'or.
Beaucoup de pierres précieuses très différentes.
Ouais, très différentes. Ces 12 pierres précieuses, elles vous font penser à quoi ? Aux tribus d'Israël, ça on nous décode. Entre parenthèses, vous voyez que toutes les fois où on a vu le chiffre 24, ou plusieurs fois le chiffre 12, on a presque un décodage ici. C'est d'une part les 12 tribus d'Israël, et
donc
puis
c'est les 12 apôtres,
et après les 12 apôtres. Vous voyez,
les fondations, c'est les 12 apôtres.
Oui, les fondations, c'est les 12 apôtres, mais chacune des portes, c'est les tribus d'Israël. Oui. C'est-à-dire que vous avez un... Ça répond aussi peut-être un petit peu à votre question, monsieur. C'est que on a affaire à un livre qui dit « Je fais toutes choses nouvelles, mais j'intègre le... ça se fait pas par rejet de l'enracinement hébraïque et judaïque. Ça se fait par intégration.
Hein? » Il y a 4 fois 3 portes, c'est ça.
Oui, il y a 4 fois 3 portes. Alors, ça fait penser. Alors, les 4 fois 3 portes, on a déjà cette structure-là avec les bœufs qui supportent la mer de bronze dans le temple de Salomon, la grande vasque là. Et on nous dit qu'il y en a 3 tournées vers le nord, 3 vers le sud, 3 vers l'est, 3 vers l'ouest. Et puis, les 12 pierres, c'est les mêmes 12 pierres que celles qu'il y a sur le pectoral du grand prêtre. Hein, le pectoral, l'espèce de bavoir. incrusté de pierre du grand prêtre. Donc cette ville nous est vraiment présentée comme un temple étendu. Hein,
c'est un bijou.
C'est un bijou, c'est un temple étendu. C'est-à-dire que, de nouveau, il y a cette idée que ce qui était réservé à l'espace simplement du temple s'étend à l'échelle de l'ensemble de la ville. Une ville, d'ailleurs, dont vous voyez la taille. On nous la donne.
Vous...
Oui. Pardon.
Vous voulez parler de la... Elle voulait parler de
l'anneau.
Oui.
Parce qu'il a un rôle important.
Oui. Alors, si vous voulez, vous avez tout à fait raison. L'anneau a un rôle important. C'est pour ça que je vous ai mis une image avec l'anneau au centre. Mais si vous voulez, on va le garder pour la fin, l'anneau. Ah. Mais évidemment, elle sert d'écrin à l'agneau. Mais on avait dit qu'elle servait d'écrin à la présence de Dieu. Donc il faudra régler le problème du rapport entre l'agneau et Dieu. Parce qu'on a l'impression qu'on hésite à nous parler d'une seule entité ou de deux entités. Mais ça, on en reparlera. Mais vous avez tout à fait raison.
C'est bien réaliste.
Ben, ça, on verra bien. On s'en fiche un peu parce que là, on est avant... on est avant toutes ces questions-là. Vous avez eu la curiosité où vous avez... Non, vous n'avez pas de Bible avec des notes. Ça fait combien, 12 000 stades?
Ça fait 2000 kilomètres.
Ça fait 2000 kilomètres, exactement. Bravo. Donc c'est une ville qui fait 2000 kilomètres de côté.
De côté, c'est 185 mètres.
De hauteur aussi. Alors c'est intéressant parce que d'un côté, on nous donne la hauteur des murailles qui est une hauteur à peu près raisonnable, hein. Mais en même temps, quand on nous donne les tailles de la ville, elle est cubique. Sans doute que là, on a l'idée d'une perfection. On aurait pu l'imaginer sphérique, on l'aurait fait sphérique. Mais c'est l'idée de la forme parfaite. Et on voit bien en même temps, avec ces 2000 km, que de nouveau, on est dans des distances qui empêchent l'idée d'une localisation précise à un endroit.
Oui, mais c'est le monde connu de l'époque et qu'elle entoure finalement.
À peu près, on pourrait dire. Hein, à peu près. Le bassin méditerranéen est quand même un tout petit peu plus grand que 2000 km, mais c'est du même type d'échelle. Et je pense que c'est ça le sens. C'est qu'elle est, elle englobe le monde connu, elle englobe l'humanité.
Et la muraille 144 pieds, c'est 12 x 12 ?
Oui, alors, c'est 12 x 12, exactement, de nouveau. On avait vu, hein, pour les 144 000 élus, que c'était plutôt un signe d'universalité ou d'infinitude. On a l'impression, si les premiers 12, c'est les 12 tribus, puis les autres 12, c'est les 12 apôtres, on a l'impression qu'on continue à être dans cette logique où il ne faut pas perdre le patrimoine, l'enracinement dans le judaïsme. Parce qu'on récupère toute cette vision-là, mais évidemment, pour la renouveler et l'universaliser. Enfin, le geste, c'est un geste d'universalisation, de déprivatisation ou d'extension de l'élection à l'ensemble de l'humanité.
Est-ce qu'on retrouve un rapport avec la description du temple de Jérusalem?
Oui, tout à fait. Bien sûr. Si vous allez lire le premier livre des Rois, chapitre 6 à 8, vous verrez ce souci de description. Et puis vous retrouverez des choses. J'évoquais là les 12 bœufs, 3 au sud, 3 au nord, 3 à l'est, 3 à l'ouest. Vous retrouverez les pierres qui constituent le... Mais c'est... Qu'est-ce qu'il faudrait dire? On pourrait presque dire que, pour prendre une image qui est à la fois historique et métaphorique, que le récit de cette construction de la Jérusalem nouvelle se fait à partir des ruines du temple de Jérusalem qui a été détruit en 70 après Jésus-Christ. Et qu'on en reprend tous les éléments, on reconstruit quelque chose qui est explicitement cultuel, mais qui est simplement étendu à l'ensemble de l'humanité. Et donc qui perd son côté localisé. Mais effectivement, on pourrait dire que là, on recycle. D'une certaine façon, la Jérusalem céleste, la nouvelle création, elle est... c'est du recyclage. ça fait moderne de dire ça. C'est de la seconde main. C'est qu'on va récupérer les matériaux. On récupère même les matériaux prophétiques d'Ézéchiel. On récupère la Genèse, etc. Et on réassemble les choses d'une façon nouvelle.
En fait, tout découle du verset 5 qui se termine par « Je fais tout nouveau ».
Exactement. Ouais.
La description de cette Jérusalem nouvelle avec ses pierres précieuses,
ouais.
C'est une illustration de cette volonté de proposer aux humains quelque chose d'entièrement nouveau.
Oui, vous avez tout à fait raison. C'est là qu'on voit que la logique de l'Apocalypse n'est pas une logique, c'est une logique d'ordre de la rupture, une logique révolutionnaire. C'est pas une logique d'amélioration ou de réforme. On dit pas c'était pas excellent, on va essayer de faire un peu mieux, on va améliorer les choses. Non, il y a l'affirmation qu'il y a une destruction totale et une reconstruction. Quitte d'ailleurs à reconstruire en reprenant, comme on vient de le dire, des briques, des éléments de sens et en les réassemblant autrement. Mais il faut que ça passe par la phase de rupture. Ça peut nous choquer. L'Apocalypse est un livre qui est dans la logique de la rupture.
Le remploi des matériaux s'est fait dans beaucoup de temples. Parce que le Kérouan comporte des piliers carthaginois, romains et compagnie.
Bien sûr, oui, tout à fait.
C'est pas nouveau.
Est-ce qu'on peut voir passer un petit peu par le temps? On l'a un peu évoqué, là on a beaucoup évoqué les matériaux et la géographie. Est-ce que de regarder les indications de temps peuvent nous aider à imaginer l'espérance qui est là offerte? Vous vous souvenez, on avait parlé au début de notre parcours de plusieurs types de temps. Un temps humain, un temps de Dieu, un temps... Là, on est dans quel...
Il y a au verset 6. Je suis la fin et
l'origine. Le commencement et la fin. Voilà. Donc là, dans le schéma, on est dans le temps de Dieu. Dans le temps englobant. On n'est pas dans le temps précis, historique, des hommes. Oui.
C'est l'éternité.
On est dans l'éternité. On l'avait déjà mentionné par le fait que la succession jour-nuit a disparu. J'ai l'impression qu'il n'y a aucune indication du temps historique dans ce chapitre. Alors que les autres chapitres mêlaient en permanence le temps historique et le temps de Dieu, là on est complètement dans le temps de Dieu, on est complètement dans, on va dire, le temps de Dieu, l'éternité.
Il y a une récolte par mois.
Oui, il y a quand même une récolte par mois, mais c'est ad vitam, oui. Donc c'est quasiment une perpétuité. D'ailleurs, cette histoire d'une récolte par mois nous donne une clé pour comprendre un passage des évangiles. Vous vous souvenez quand Jésus arrive précisément à Jérusalem, dans l'évangile de Marc, le figuier, oui. Qu'est-ce qui se passe? Le figuier, Jésus arrive à Jérusalem avec ses disciples. Il voit un figuier qui avait l'air beau de loin. Il s'y rend. Et il n'y a pas de fruits. Et Marc nous dit pourquoi il n'y avait pas de fruits. Parce que ce n'était pas la saison. On pourrait se dire, bah oui, c'est une évidence. Si on va chercher des fruits quand ce n'est pas la saison. Mais malgré tout, le troisième jour à son retour de Jérusalem, ou la troisième fois où il retourne, Jésus, enfin le premier jour, Jésus maudit le figuier, et le troisième jour, Pierre fait remarquer à Jésus, tu as vu le figuier que tu as maudit, il est tout sec. Pourquoi est-ce que Jésus a maudit un figuier qui, alors qui n'avait pas de fruits, alors que ce n'était pas la saison, c'était normal. On a une des clés là dans notre récit d'Apocalypse. Ouais. Là justement, sur cette histoire d'arbres qui donne... Ben oui. Parce que quand Jésus est là, le monde nouveau est arrivé. Quand Jésus est là, on est dans les temps messianiques, le monde nouveau est arrivé, et le figuier aurait dû donner des fruits à toute saison, comme l'arbre qui est dans la Jérusalem céleste. Et puis vous savez bien que le figuier, dans le récit en particulier de Marc, est l'image du temple. Le temple n'a pas donné de fruits, c'est pour ça qu'il est desséché, à savoir détruit. Hein? Donc, en fait, on récupère cet imaginaire que dans les temps messianiques, mais les temps messianiques ne sont pas forcément la fin des temps, mais dans l'évangile de Marc, on considère, ou Jésus considère, que sa présence est déjà la présence du temps messianique et qu'il aurait été légitime que le figuier porte des fruits hors saison. Monsieur.
Si on se... Pour répondre à votre question sur le temps, si on se reporte au chapitre 22, verset 6 et suivant, que vous ne citez pas là, dans la première séance qu'on a eue,
tout à fait,
je vois que vous aviez mis en reprendra.
Je viens bientôt.
Je viens bientôt. Car le temps est proche. Je viens bientôt de nouveau. Viens.
Ouais.
Le temps est annoncé.
Ouais.
Et il n'est pas encore arrivé.
Ouais.
Il vient, il est proche, c'est bientôt.
Ouais.
C'est pas fixé comme au mois de juillet.
C'est-à-dire qu'on a l'impression presque qu'on approche du temps messianique de façon asymptotique. Pour ceux qui ont en tête encore quelques cours de mathématiques, la courbe qui va se rapproche sans arrêt de sa limite, sans jamais la toucher, mais qui en est toujours plus proche. Je pense que l'Apocalypse est un livre qui essaie d'amener son lecteur à être dans ce type de gestion du temps, à savoir d'avoir la conviction que le temps est proche, donc que ça vaut le coup de mener le combat, d'avoir la parole d'espérance qu'on n'en a jamais été aussi près. Et c'est un petit peu comme si vous allez avec des petits-enfants dans le sud de la France et puis qui sont derrière, vous partez de Paris et puis vous n'avez pas passé le périphérique puis qui vous demandent quand est-ce qu'on arrive, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc vous voyez, c'est bientôt, vous avez vécu ce genre d'expérience. Il s'agit de maintenir l'espérance, parce qu'on arrivera bien un jour. Mais derrière ça, et derrière, je crois, toute l'Apocalypse, je fais un peu des considérations générales parce qu'on arrive au bout là, dans une dernière séance. Il y a comment gérer le temps sans être, ou bien, pour nous chrétiens aujourd'hui, ou bien complètement endormi en nous disant ça fait 2000 ans qu'il a dit qu'il allait revenir, il n'est pas encore revenu, il ne reviendra pas demain, hein, ni même de mon vivant. Donc, on s'installe dans une durée qui est démobilisante finalement. Ça, c'est un des écueils. L'endormissement par démobilisation, parce que ça fait tellement de temps qu'on attend, on peut dormir, hein, y a peu de chances qu'il arrive. Et c'est pour ça qu'il y a toutes ces paraboles du roi qui part en voyage et qui revient à l'improviste, hein, qui appelle à la veille. Puis il y a de l'autre côté, l'autre dérive, qui est la dérive sectaire ou illuminée, qui consiste à vous dire « c'est demain ». Ou c'est ce soir, à être dans l'excitation permanente, à maintenir les fidèles dans l'excitation permanente du fait que Jésus arrive demain. On voit bien que c'est pas non plus. Et donc l'Apocalypse est dans cette gestion-là de dire on est dans le combat, on est sans arrêt plus près de la victoire est déjà acquise, ça vaut le coup de mener le combat, et puis en même temps, il y a la conscience que ce n'est pas déjà arrivé, d'où vient bientôt. Hein? D'où le fait que des choses sont annoncées comme ayant déjà eu lieu, le jugement, la fin de la mort, etc., la victoire sur la mort, l'agneau a remporté la victoire, n'empêche que dans la vie, la victoire n'est pas encore concrétisée. Il faut l'habiter. Donc vous avez tout à fait raison de mentionner ce « vient bientôt » qui signale que c'est très très proche, mais ce n'est pas encore là. Et je crois que c'est une question qui se pose à toutes les communautés chrétiennes ou à toutes les communautés d'espérance. Hein. Ça s'est posé pour un des derniers messianismes qui était le messianisme révolutionnaire marxiste. Hein, je veux dire quand est-ce que ça vient ? Alors, on peut toujours rigoler sur les grands soirs, mais là, ça nous raconte un grand soir. Hein, comment tenir ? Alors, vous avez de l'autre côté ceux qui disent c'est la fin de l'histoire. Il n'y a plus d'histoire. Mais ceux qui, on l'a vu hein, à la fin du chapitre 18 de l'Apocalypse, ceux qui disent c'est la fin de l'histoire, c'est ceux qui sont les tenants du pouvoir. C'est Rome qui dit je suis éternel, jamais je ne verrai le deuil. C'est même pas la peine de vous battre, les amis. L'histoire est arrêtée. Donc, et puis en même temps, l'enjeu, il n'y a pas de solution. Hein. L'enjeu, c'est comment aussi maintenir une espérance qui ne soit pas simplement un hochet ou une carotte devant le nez de l'âne pour la faire avancer. C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous fait dire qu'il y a des combats qui, en tant que chrétiens, méritent d'être menés, même si on sait que ça nous rapprochera de la Jérusalem céleste, mais ça n'y sera pas encore. Voilà, je ne sais pas si ça vous évoque des choses que je vous raconte, mais c'est en tout cas...
C'était l'orage de Milan.
Comment ? Hitler,
c'était l'orage de Milan.
Oui, l'orage de Milan, oui. On ne peut pas se passer de cause, d'horizon. En même temps, on n'y est jamais. Et en même temps, il ne faut pas désespérer, parce que si on baisse les bras, si on dit... au fur et à mesure que j'avance, l'horizon recule. Bon, je vais m'arrêter. Voilà donc le récit de l'Apocalypse essaie de nous faire entrer dans ce schéma. Merci pour cette remarque sur le temps.
Je peux vous demander une question. À quelle époque il a eu cette vision, Jean ?
Alors, celui qui s'appelle Jean, hein, le Jean de Patmos, oui, on imagine à l'époque où il écrit, donc fin du premier siècle, le livre de l'Apocalypse a été écrit dans les années 95 à 100 de notre ère. Donc la destruction du temple de Jérusalem a déjà eu lieu.
Mais c'est après la destruction.
Oui, ça c'est clair. Est-ce qu'on peut essayer de comparer l'ancienne et la nouvelle création, puisqu'il s'agit bien d'une création nouvelle qui est proposée.
Alors, la mer n'était plus.
La mer n'était plus.
La mer, c'est pas l'image du chaos.
Oui, c'est exactement.
Et là, on tend vers l'unité.
Oui, c'est-à-dire que dans l'imaginaire... pour nous, c'est un peu choquant, parce qu'on sait que la vie vient de la mer, qu'il faut protéger la mer, que la mer couvre 75% de la planète. Pour nous, la mer et l'océan est un lieu éminemment positif et à protéger. Dans la mentalité hébraïque, la mer, c'est le lieu du chaos. Hein, dans la mentalité, les sémites, c'est pas des gens qui ont le pied marin. Hein, ils vivent dans le croissant fertile. Quand l'eau, c'est le Tigre et l'Euphrate ou le Nil, c'est bien. Quand c'est le lac de Galilée, c'est bien. Mais alors, si c'est ce qu'ils appelaient déjà la grande mer, qui est la Méditerranée, alors ça, c'est le lieu des forces
de perdition.
De perdition celle qui avale les marins, etc. Et puis c'est cette mer qui attaque le rivage en permanence. Donc c'est le monstre qui nous entoure, hein. c'est le Léviathan. Donc c'est d'ailleurs pour ça que dans les images de Jésus qui marche sur la mer, c'est Jésus qui marche sur le chaos et sur les eaux de la mort, hein. Donc on comprend bien que dans la nouvelle création, il n'y a plus de place pour cette image du chaos. Donc c'est absolument pas une considération de type...
Il ne reste aucune image de l'ancienne terre, elle avait disparu.
Ouais.
Et le ciel aussi d'ailleurs.
Oui, vous voyez bien, même si on recycle, en fait, on nous dit bien, on le signalait tout à l'heure, qu'il y a une rupture. Ouais.
Une mutation complète.
Ouais.
Plus de chaos, alors qu'il y avait à l'origine, à la Genèse, il y a le chaos quand même.
Hein. Oui, exactement, il y a un chaos initial qui est organisé. Il y a un chaos initial qui est organisé, là, même le chaos, le chaos disparaît. Ouais. Vous voyez que... On parle aussi à des gens, il faut bien voir, qui sont dans un combat où il en va pour maintenir leur intégrité et leur fidélité à l'Évangile, il en va de leur vie. Hein? Des communautés, je l'ai dit plusieurs fois, imaginons que nous soyons sous le régime de l'Empire romain. D'abord, on aurait tiré les rideaux. On ne serait pas tous entrés à la même heure par la même porte, et puis on se réunirait peut-être pas à la grande salle du second. Vous voyez ce que je veux dire ? Enfin, et puis on craindrait, on aurait en permanence le souci de qu'est-ce qui va se passer quand je vais rentrer. Hein ? Donc on est dans des et puis peut-être que parmi nous, il y aurait des gens qui n'étaient pas là, qui étaient là à la dernière rencontre, mais dont on sait qu'ils se sont fait arrêter et qu'ils sont actuellement torturés ou qu'ils sont déjà morts. Vous voyez, imaginez ça. La vision qui est proposée à cette communauté, c'est une vision d'apaisement, en disant la victoire a été remportée, la Jérusalem là est prête pour la rencontrer. D'ailleurs, ceux qui vous ont quittés l'ont déjà rejoint d'une certaine façon, parce qu'ils font partie de ceux qui ont trempé leur robe dans le sang de l'agneau et qui sont au pied du trône. Bon, en réalité, c'est une vision d'apaisement. Il y a le combat, mais il y a aussi le moment pour se rendre compte et profiter de la victoire.
Et pour trouver l'apaisement dans la Nouvelle Jérusalem, qui est une forteresse inviolable.
Alors, oui, c'est intéressant, on va venir, oui.
Je fais suivre ce que vous dites, le dernier verset.
Oui.
Nous n'avons pas ici, que j'ai retrouvé dans la première feuille. Là.
Ouais, ouais.
Moi, je l'atteste à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre.
Ouais.
Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu lui ajoutera les fléaux décrits dans ce livre. Si quelqu'un retranche des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la vie sainte décrite dans ce livre.
Ouais.
Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. » Amen. Donc, cette vision de la Jérusalem céleste, il ne faut rien y rajouter.
Oui.
Ni rien y rajouter.
Ouais.
Et nous sommes appelés à attester.
Oui.
Cette vision.
Oui, absolument. Oui. Elle est complète, oui, tout à fait. Oui. Et quelque part, elle est l'objet d'un témoignage.
Oui.
Oui.
Quelque chose qui me gêne un petit peu, je comprends mal. Au verset 27, chapitre 21,
oui.
Il n'y entrera jamais rien de souillé, ni faiseur d'abomination de mensonge, mais ceux-là seuls qui sont inscrits dans le livre de la vie de la vie.
Oui.
Ça veut dire que c'est restrictif quand même.
Oui, oui, oui. On avait déjà vu ça sur le chapitre 20, sur le millénium. Hein. La question, c'est si on se met dans une chronologie, alors ça veut dire qu'il y a des registres, puis c'est un petit peu comme le registre électoral. Si vous n'êtes pas sur la liste, vous ne pouvez pas voter, vous ne pouvez pas rentrer. Hein. Donc, ceux qui ne sont pas sur la liste ne pourront pas rentrer. On a affaire à un livre qui parle aussi à des vivants, qui leur disent vous avez toujours des choix possibles. Simplement, les choix, ils vont s'inscrire dans la vie et dans votre positionnement. vous pourrez vous exclure vous-même si vous faites partie de ceux qui essaient de moyenner avec les valeurs de l'Empire pour sauver leur peau. Mais ça, comme on parle à des vivants, il y a toujours la possibilité que ça s'étende. Mais c'est vrai qu'une fois que, une fois qu'on est mort, il n'y a pas possibilité de changer de camp. Et donc ça apparaît comme une inscription définitive. Tu vois ce que je veux dire ? Donc le choix se fait. C'est un petit peu le même basculement de temps qu'il y a dans Matthieu 25. J'ai déjà cité. Quand Dieu sépare les agneaux et les brebis et les boucs, et que certains semblent exclus puisqu'ils sont rejetés, et ils viennent demander, mais quand est-ce que nous t'avons vu en prison et ne t'avons pas visité, vu assoiffé et ne t'avons pas nourri? Ils disent, mais quand? Mais ils disent, mais ça s'est passé quand vous aviez l'occasion de le faire. Donc c'est cette image que après la mort, les choses sont bloquées.
C'est trop tard.
En même temps, voilà. Donc le jugement, la question c'est quand est-ce qu'a lieu le jugement? Est-ce qu'il est dernier au sens chronologique du terme? Est-ce que c'est la dernière page de l'agenda Covadis de Dieu? Ou bien est-ce que le jugement se passe dans le positionnement, dans la vie? Or, l'Apocalypse s'adresse à des gens vivants et les appelle à se positionner bien. Ça pourrait nous emmener à voir qui n'entre pas dans la ville. Il y a toute une liste qui est donnée au verset 8. Chapitre 21, verset 8. Alors, on va la liste. Les lâches. Les infidèles. Alors, les lâches et les infidèles, on voit à peu près à quoi ça peut référer. Si on se rappelle du chapitre 2 des lettres, c'est tous ceux qui n'ont pas le courage de soutenir l'évangile auquel ils adhèrent et puis qui deviennent éventuellement infidèles. Les êtres abominables et les meurtriers.
Pourquoi les prostituées?
Oui. Vous vous souvenez de ce qu'on a dit sur les prostituées? On a dit que ce n'était pas les dames ou les messieurs qui font commerce de leur corps. Dans la logique de l'Apocalypse, c'est ceux qui font alliance avec Rome. Ce sont les rois de la terre qui se sont prostitués avec elle, hein, avec la grande prostituée qu'est Babylone. Donc, on n'est pas du tout là dans une liste de péchés moralisateurs.
D'ailleurs,
oui,
le sens primitif de prostituée. J'ai pas l'impression que dans l'Ancien Testament, les prostituées étaient l'objet représentaient un péché particulier. Je sais pas, je me réfère à un rabe,
ouais,
la prostituée de Jéricho.
Ouais. Alors, elles subissent une exclusion. C'est presque considéré comme un déjà là ou un mal nécessaire. Mais en même temps, oui, vous avez tout à fait raison. Rahab, on dit, elle et sa famille vont habiter hors de la ville. Et puis un verset après, on se rend compte que ses descendants habitent au milieu de la ville. Elle fait partie de nous. En même temps, le fait d'aller chercher ces figures-là pour montrer qu'elles peuvent être dans le plan de Dieu veut bien dire qu'elles ne le sont pas naturellement dans l'imaginaire de ceux pour qui on écrit. Mais là ce qui est clair, c'est que l'ensemble des lâches, les infidèles, les abominables, les meurtriers, les prostituées, les sorciers, les idolâtres et les menteurs, on retrouve là toutes les figures de ce qui a été dénoncé chez Rome. Le faux prophète de mensonges qui manipule et égare les nations, les rois qui font commerce avec Rome pour gagner un peu de gloire et d'autorité. J'ai l'impression que ce qui est dénoncé là, vous voyez, c'est pas ceux qui ont été égoïstes ou méchants avec leurs voisins ou qui n'ont pas partagé, etc. C'est tous ceux qui sont dans une logique de collusion d'une façon ou d'une autre avec le système ONI qui est le système idéologique romain. Et alors ceux-là n'en font pas partie. Et comme l'enjeu de l'auteur, c'est d'appeler les fidèles à choisir clairement leur camp, et surtout à ne pas avoir un pied dans le camp d'en face, dans le camp romain, on leur dit, attention les amis, un dernier appel, il y a ceux qui auront eu le courage de résister, puis il y a tous les autres qui sont dans ce paquet d'ordures, quoi. Mais qui se sont mis, effectivement, tu as raison Nicole de dire, c'est pas universel dans le sens que... C'est universel dans le sens que c'est offert à tous. Mais c'est pas universel dans le sens que tout le monde n'est pas enrôlé de force. Et ceux qui font l'autre choix...
Il insiste beaucoup sur le mensonge, je trouve. Ouais. On retrouve les menteurs à un point, et puis ensuite l'abomination du mensonge.
Oui, tout à fait. Et ce qui est reproché au prophète, au mauvais prophète de l'Apocalypse, c'est d'être menteur. En fait, on dénonce un système qui fait des promesses qu'il ne tient pas.
Les bonnes semaines.
Je parle de Rome. Hein. Je parle de Rome.
Il y a des
résonances. Et qui arrive à convaincre la majorité des nations d'entrer dans sa combine, alors même que c'est au détriment de ceux qui rentrent dans cette combine. Voilà. Mais là, c'est Rome qui est visé. Hein. Je n'ai pas fait exprès là. Quelquefois, j'ai fait exprès de. Mais pas là. Revenons sur la ville, parce que ça va nous peut-être nous donner une indication de nouveau par rapport à ce que tu disais, Nicole, sur l'exclusion. Quelqu'un disait, on leur promet une ville qui est bouclée, une forteresse qui est bouclée à double tour.
Oui, non, les portes ne sont pas fermées.
Mais
c'est très important, ça.
Vous voyez que sur cette ville, il y a combien de portes? Il y en a 12. On nous précise qu'elles sont fermées la nuit et ouvertes le jour.
Donc elles sont ouvertes.
Mais on nous dit tout de suite en même temps qu'il n'y a pas de nuit. Donc la déduction que vous avez déjà faite est bien faite, c'est que la porte est toujours ouverte. On pourrait se demander à quoi servent des portes qui sont toujours ouvertes. Hein, on précise qu'il y a... Ça c'est intéressant, c'est toute une autre thématique ça qui peut rejoindre, vous voyez bien, les questions. On a parlé de l'Europe forteresse par rapport aux émigrés, mais on pourrait parler au niveau de l'individu idéologiquement. Est-ce qu'il est ouvert, fermé ou une société, est-ce qu'elle est ouverte ou est-ce qu'elle est fermée ce que je trouve frappant dans cette vision de la Jérusalem nouvelle, c'est à la fois qu'il est essentiel qu'il y ait une muraille et des portes, sinon on ne nous en parlerait pas avec autant un luxe de détails, ça prend dix versets, et en même temps, il est important que les portes soient ouvertes. C'est-à-dire, on pourrait dire qu'on ferait une économie, si on ne faisait pas de muraille, il n'y aurait pas besoin de portes. Hein il me semble que c'est une image assez parlante de ce qui est la condition de la vie. Y a plusieurs images qui me viennent en tête. Une image, par exemple, l'image de la cellule, une cellule de brique du vivant. Il n'y a pas de cellule s'il n'y a pas une enveloppe. Hein, s'il n'y a pas une enveloppe, une membrane. Sinon, d'ailleurs, pour tuer une cellule, on la fait lyser, c'est-à-dire qu'on détruit la membrane et le contenu de la cellule se répand dans le milieu et il n'y a plus de cellules vivantes. Donc c'est indispensable qu'il y ait une enveloppe qui sépare l'intérieur de l'extérieur. Puis en même temps, si c'est une enveloppe qui est absolument étanche, qui n'autorise aucun passage du dedans vers le dehors ou du dehors vers le dedans, alors la cellule meurt aussi, parce qu'elle se sclérose. Et finalement, la condition de la vie, c'est un équilibre, alors toujours comme tous les équilibres avec des curseurs, entre la protection là, qui est figurée par la muraille, et en même temps, le nécessaire passage entre l'intérieur et l'extérieur. Je ne sais pas si ça vous parle, cette image de la cellule, mais on pourrait l'appliquer à une société, l'appliquer à une ville. Hein. Et là, on pourrait peut-être l'appliquer au souci de Nicole sur l'universalisme ou pas l'universalisme. Parce qu'évidemment, on pourrait dire tout le monde est inscrit dans le livre de vie, tout le monde est... Il n'y a pas de différence. Ce serait plaisant, ça. Sauf que s'il n'y a pas de différence, alors ça sert à quoi de risquer sa peau pour résister aux valeurs de l'Empire, pour être fidèle à l'agneau? Ce n'est pas une récompense qui va être donnée, mais il y a bien une différence. Il y a bien une différence entre le bien et le mal. Donc là, il y a la nécessité d'une inscription, d'une limite. D'un côté, il y a la collusion avec les valeurs de l'Empire. De l'autre côté, il y a le témoignage de l'agneau. Mais en même temps, si on s'en tient là, alors on a un système complètement fermé. On dit, il y a les élus, version témoin de Jéhovah, ou il y a les happy few qui ont gagné la couronne, et puis maintenant, on ferme les portes à clé, parce qu'il ne s'agit surtout pas de partager le bénéfice. Enfin, le bénéfice de vie, le bénéfice existentiel de ce combat. Et là, le texte nous dit, les portes sont toujours ouvertes. C'est-à-dire que s'il y en a qui sont dehors, si jamais ils renoncent à faire partie dès l'âge des prostituées, des menteurs, etc., il n'y a aucun problème, on ne les bloquera pas à l'entrée. Tu vois ? Donc il me semble que c'est lié. Il y a une figure de... L'universalisme ne veut pas dire... C'est une question importante, ça. Hein. Et puis qui traverse peut-être nos sociétés. Est-ce que l'universalisme veut dire que tout se vaut? Non. Alors c'est clair, il y a ceux qui sont pour l'universalisme et ceux qui ne sont pas pour, déjà. Et ceux qui s'excluent de l'universalisme, ils ont fait un choix existentiel. Non ? Ah, je croyais que vous...
J'avais une question.
Oui, allez-y. Oui, bah, allez-y.
Parce que c'est les cinq fois l'agneau.
Oui. Dans 21. Vous avez raison de nous rappeler à l'agneau. Oui.
Je suis très bien déjeuné à midi, tout va bien, mais je vous pose la question dans la Nouvelle Jérusalem, dans la Nouvelle Jérusalem céleste, l'alimentation est à base de quoi ? Parce qu'il y a certes le monde végétal.
Oui.
C'est... Parce que bon, c'est un symbole, évidemment.
Ouais,
c'est sans doute le symbole de l'innocence.
Ouais. Enfin... Alors, l'agneau, on va y revenir. Juste pour répondre à la deuxième partie de votre question, la Jérusalem céleste, alors ça, c'est peut-être un des problèmes de la réception de l'Apocalypse. C'est-à-dire que la Jérusalem céleste n'est pas un programme politique. La Jérusalem céleste n'est pas un programme de vie au sens de qu'est-ce qu'on va manger. Puis qui sera le chef, est-ce qu'on aura encore des corps aux pieds ou pas. C'est pas ça le programme, c'est un programme existentiel, et on va le voir avec des textes que je vais vous distribuer juste maintenant. Donc je dirais presque que la question, elle est en dehors. On ne se pose pas la question de ce qu'on va manger ou ce qu'on ne va pas manger, parce qu'on n'est pas dans la description d'un programme politique à réaliser. À mettre en œuvre. Alors vous me direz, ça c'est facile parce que ça permet du coup de. Hein, si on n'a pas à rencontrer le réel et la mise en œuvre, c'est facile d'imaginer n'importe quoi. En même temps, à chaque fois que des groupes de croyants ont essayé de mettre en œuvre un programme de ce type-là, ça finit par la catastrophe. C'est pareil d'ailleurs. Quand des programmes politiques veulent amener le paradis sur terre, ça amène à la catastrophe. Parce qu'on prend ce qui est un horizon, un positionnement existentiel de combat, on le prend comme un programme à un mode d'emploi IKEA à mettre en œuvre. Donc ça, c'est pour répondre à la deuxième partie de votre question. Je dirais, la question ne se pose pas. On n'a pas besoin de manger, c'est, la question n'est pas pour...
Si, il y a des fruits...
Voilà, puis de toute façon, oui, voilà. Par contre, la présence de l'agneau, si vous regardez, vous voyez que l'agneau, dans la plupart des représentations, même toutes celles que je connaisse, c'est l'agneau qui est seul au centre. Vous avez certaines représentations qui nous montrent le visionnaire et l'ange à l'intérieur de la Jérusalem céleste, mais là, c'est l'agneau qui occupe toute la place. D'ailleurs, rares sont les artistes qui représentent le trône de Dieu. Pourtant, on nous dit qu'il y a le trône de Dieu qui est au milieu. En fait, c'est l'agneau qui a pris toute la place. C'est-à-dire qu'on est dans une christologie au niveau de la représentation du rôle du Christ, de l'agneau, qui est Dieu. Hein, c'est ce qu'on a appelé la haute christologie. Vous avez, on peut déplacer Jésus du simple homme, hein, Jésus vu de façon profane comme un sage qui a dit sans doute des choses très intéressantes, mais qui est un homme comme tout le monde. Et puis à l'autre bout, vous avez Jésus qui est le Seigneur complètement Dieu, le ressuscité complètement Dieu. Et vous avez toute la gamme entre les deux. Hein. Puis vous avez certains conciles qui essaient de se dépatouiller de ça sur la nature du Christ en disant il est 100% humain et 100% divin. Enfin, moi, si je fais un cocktail et que je mets 100% de deux produits, ça va déborder. Hein, mais voilà, allez-y.
Dans cette représentation, on constate que l'agneau est dans la ville, enfermé complètement.
Oui, c'est intéressant, les portes ne sont pas représentées. Hein, ouais. Ils avaient peut-être mal lu, ouais, il n'y a pas de porte représentée. D'ailleurs, il a l'air bien seul, l'agneau. Mais on imagine que toute l'humanité y est. Pardon ? Oui, mais il y a les portes, mais on ne les voit pas ouvertes, si tu veux. On ne nous a pas montré les battants ouverts. Non. Ce qui est tout à fait clair, c'est que vous rappelez comment s'appelle l'Apocalypse au début, hein, au premier verset. Le premier verset du chapitre 1. Révélation de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Apocalypse 6, donc révélation. On enlève le voile sur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et vous vous souvenez qu'on avait dit, à propos de ce premier verset de l'Apocalypse, que le génitif pouvait être compris dans les deux sens. Révélation de Jésus-Christ, Fils de Dieu, c'est qu'il est à la fois l'objet de la révélation, mais il est en même temps celui qui révèle. En fait, c'est l'idée que le Christ, l'agneau de Dieu, c'est pas n'importe quel Christ, hein, c'est celui qui a, pour reprendre le langage d'Apocalypse 13, celui qui a été égorgé et qui est debout, et qui est ressuscité. Donc c'est le Christ mort et ressuscité qui est représenté, là, l'agneau. Le visionnaire et tous ceux qui ont représenté ce chapitre 21 ont tout à fait conscience que la clé de voûte de tout le propos de l'Apocalypse, c'est la mort et la résurrection du Christ. Et on l'a vu tout au long de notre parcours. C'est-à-dire que la mort et la résurrection du Christ sont le paradigme sur lequel l'existence des chrétiens pour qui l'Apocalypse est écrit est appelée à se conformer. C'est-à-dire celui qui ne tient pas à sauver sa peau, mais tient à témoigner de l'Évangile. Le Christ étant l'emblème de ceux qui ont fait ça. Si vous reprenez l'hymne aux Philippiens, il n'a pas regardé comme une proie à saisir de se faire l'égal de Dieu, mais s'est fait serviteur jusqu'à la croix. Ou alors vous avez Jésus qui dit « Celui qui veut sauver sa vie la paiera », sous-entendu sauver sa peau, hein, « et celui qui la perdra à cause de moi et de l'Évangile la gagnera ». Donc c'est vraiment la clé, et c'est pour ça que il n'y a pas d'autre... finalement, l'agneau immolé et ressuscité devient remplit toute la place, y compris la place de Dieu dans la logique de l'Apocalypse. Parce que c'est lui qui trône. Et on avait vu à plusieurs reprises que celui qui siégeait sur le trône, on n'était plus bien sûr si c'était l'agneau ou si c'était Dieu. Tout simplement parce que dans la logique de l'Apocalypse, c'est le même. Mais ce n'est pas le Jésus terrestre, hein, c'est la figure représentée par cet agneau. Je ne sais pas si vous... Peut-être que dans les 10-15 minutes qui nous restent, on pourrait peut-être... sauf si vous voulez nous ramener des questions par rapport au texte, on pourrait élargir un petit peu sur ce parcours que nous venons de faire aujourd'hui, mais aussi les dernières fois. Madame. Au verset 3.
Alors, qu'est-ce que c'est que le mot qu'on a traduit par les esclaves?
Alors ça, je l'ai dit, je l'ai redit à plusieurs reprises. On a toujours un problème avec le mot doulos.
C'est comme prostituée.
C'est douloï. Non, c'est pas comme prostituée. Mais c'est le mot douloï en grec veut dire à la fois serviteur et esclave. Alors, c'est un problème qui joue dans tout le Nouveau Testament. Si on met serviteur, c'est insuffisant. Parce que serviteur, on pourrait dire, je choisis de servir un maître et je peux changer de maître. Or, l'esclave, il appartient à son maître. Donc, le terme esclave irait bien. Sauf que nous, évidemment, dès qu'on voit esclave, on pense aux Hébreux en Égypte, on pense à la traite des Noirs et à l'esclavagisme, et on se dit, je n'ai pas vraiment envie d'être esclave de Dieu. Je préférais être son serviteur. Voilà. Donc, dans le Nouveau Testament, quand vous rencontrez le mot serviteur ou esclave, vous pouvez être sûr qu'il y a derrière doulos. Si c'est traduit par serviteur, c'est juste, mais c'est insuffisant, parce que ça ne désigne pas la relation d'appartenance à son maître. Puis si vous voyez esclave, c'est juste, mais c'est embêtant parce que avec esclave vient tout un imaginaire qui ne correspond pas à ce qu'on a envie de promouvoir. Si on vous disait vous êtes des esclaves de Dieu, vous pouvez le comprendre avec l'explication que je viens de vous faire, mais vous dites que c'est peut-être pas ça que vous allez utiliser dans le témoignage ou dans l'évangélisation. Voilà. Donc, vous pouvez remplacer par serviteur si vous voulez. Mais sachant que c'est un tout petit peu faible, serviteur.
Monsieur. Pourquoi vous avez fait... Il y a une graphie en italique sur certaines membres de phrase.
Alors ça, c'est... est-ce que c'est moi qui l'ai fait? Alors, elle n'est pas dans le texte hébraïque, évidemment. Je crois que c'est parce que ce sont des phrases qui ont statut de citation. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Au verset 6, par exemple, hein, 21:6, 21:6, 21:6, c'est 21:6?
Oui. 21:7.
Ah, 21:7. Oui, voilà. 21:7. Oui, ça renvoie à, j'essaie de trouver. Ça renvoie à une citation que j'ai pas donnée. J'ai pas la référence là-dedans.
L'essentiel, c'est que ça renvoie déjà.
Ça renvoie
à l'Ancien Testament.
Voilà, exactement. Oui. Voilà.
C'est une liaison supplémentaire, voilà, avec l'Ancien et le Nouveau.
Voilà.
D'accord. Merci.
Je ne sais pas, qu'est-ce qui vous semble de ce parcours de l'Apocalypse?
Moi, j'ai trouvé très éclairant.
Oui.
Non, j'ai tout l'aspect par rapport à l'Empire romain.
Oui.
Avant que vous ne parliez, j'arrivais pas bien à comprendre.
Oui.
Ces références historiques. Non.
La référence à l'histoire vous a aidé. Oui. Oui. Je vais peut-être quand même vous passer une feuille, on ne va pas tout lire, mais vous irez voir ces textes-là. vous le fait passer, voilà. Bon, c'est pas pour fermer la discussion hein, sur ce parcours. Il me semble que, comment dire, ça montre comment l'Apocalypse est un parcours d'espérance. C'est un manifeste pour le combat, pour soutenir un combat. Et on voit bien comment il y a une méprise quand on utilise de façon profane, abondamment, le mot apocalyptique pour expliquer uniquement la destruction. Alors que c'est vraiment un commentateur catholique qui a écrit un livre qui s'intitule « Je n'ai pas écrit l'Apocalypse pour vous faire peur ». Précisément pour casser aussi le texte que je vous fais passer, les textes, c'est uniquement vous voyez des textes de l'apôtre Paul, la lettre aux Romains, la lettre aux Corinthiens, la lettre aux Galates. L'apôtre Paul est l'auteur qui utilise le plus, d'une part, le mot apocalypsis, révélation, et d'autre part le mot création. Je vous les ai mis en gras à chaque fois pour aller plus vite. Mais vous voyez que pour Paul, l'Apocalypse vient après. Hein. L'Apocalypse est écrite 50 ans au moins après les lettres de Paul et vient finalement appliquer à une situation historique particulière, une certaine apocalyptique, on pourrait dire, que Paul a développé et qu'il a développé, lui, à l'échelle de son expérience personnelle. Vous voyez, si je regarde Galates 1, l'avant-dernier texte, quand il raconte comment il a été saisi, alors nous, on pense au chemin de Damas parce qu'on a toujours en référence Acte 9, mais Paul en parle un peu différemment quand c'est lui-même qui parle de ça. Il dit « La bonne nouvelle que j'ai reçue, je l'ai reçue par une apocalypsis Jesu Christu, c'est-à-dire par une révélation de Jésus-Christ. » Paul dit « J'ai eu une expérience qui est de l'ordre de l'apocalypse. J'ai eu une apocalypse, une révélation. Le Christ s'est révélé à moi. » C'est le même mot, hein. Et puis, quand il va dire ce que... et puis au Romains 8, verset 19, le tout premier des versets que je vous ai donnés, « Car la création, là c'est Ctisis, attend avec impatience la révélation, donc de nouveau l'Apocalypse, des fils de Dieu. » On a une création qui est en attente. Hein? Et puis, vous avez en 2 Corinthiens 5... Vous voyez que cette création qui, dans le livre de l'Apocalypse, nous est décrite de façon géographique, architecturale, en fait, pour Paul, est une révélation qui est de l'ordre, une nouvelle création qui est de l'ordre de l'intériorité. Chapitre 2 Corinthiens 5, verset 17, « Si quelqu'un est dans le Christ, il est une création nouvelle. » C'est intéressant parce que la création, c'est plus la terre, la mer, le ciel, c'est la personne qui devient elle-même une création nouvelle. Et alors là, vous avez une inversion, c'est plus le Christ qui est en elle, mais la personne qui est dans le Christ. Il y a une sorte d'inversion de l'habitation. Et puis en Galates 6, donc avant-dernier verset de la page, ce qui importe, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais la création nouvelle. Si je vous ai mis ces passages-là de l'apôtre Paul, c'est pour montrer que, en fait, l'Apocalypse, elle peut bien sûr avoir la logique apocalyptique qui conduit à l'abandon d'une création ancienne pour entrer dans une création nouvelle. Elle peut avoir, et on l'a bien vu dans l'Apocalypse de Jean, des échos par rapport à l'histoire humaine, à l'enracinement politique dans une histoire particulière. Et c'est souvent comme ça qu'elle a été utilisée par les mouvements millénaristes. Hein. mais elle peut aussi avoir une dimension intériorisée où l'Apocalypse dont il s'agit, c'est la révélation de Jésus-Christ dans une existence et une histoire individuelle, mais qui a la même portée. Donc on pourrait dire, tout ce que nous avons découvert sur l'Apocalypse dans notre parcours peut et ou soit nous emmener dans un combat de type politique et sociétal, ou dans un combat évangélique, ou dans un combat personnel. Parce qu'il y a aussi du travail à faire pour devenir une création nouvelle, qui est libérée de la lâcheté, de la prostitution, du mensonge, etc. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc je voulais terminer par là, vous montrer cette piste-là aussi. Alors c'est Paul n'ouvre pas cette piste après l'Apocalypse. Il le précède, mais en même temps, Paul reprend la thématique des apocalyptiques juives qui l'ont précédé. Et peut-être aussi pour montrer que, si je voulais finir par là, vous lirez les textes, hein, mais c'est de montrer aussi que la logique apocalyptique, cette logique de rupture, de choix, d'être soutenu par une espérance qui vaut le coup d'être défendu, voire au prix de son confort ou de sa vie, c'est pas une annexe du christianisme, c'est pas un élément à côté, optionnel. Enfin, si on retrouve chez Paul, c'est vraiment central. Je pense vraiment que la pensée chrétienne est profondément apocalyptique, pas au sens d'aller mener la dévastation et partout, mais au sens de dire que c'est une pensée de rupture. C'est une pensée qui appelle à rompre avec des anciens fonctionnements. Hein, c'est un peu le ressort.
Cette notion de Jérusalem nouvelle,
ouais.
Nouveauté,
ouais.
Elle traverse toute la ville finalement.
Oui.
Le chemin nouveau de l'Ancien Testament. Voici, je ferai toute chose nouvelle.
Tout à fait.
Le Nouveau Testament, ouais. Ça se termine par Jérusalem nouvelle.
Oui, tout à fait.
C'est une préoccupation, enfin une annonce de sa différence,
ouais.
Mais qui traverse toute la ville.
Oui, vous avez tout à fait raison. Paul va même parler du renouvellement de l'intelligence. Et dans l'Ancien Testament, on a en permanence. Alors, c'est pas la nouveauté pour le gadget du nouveau, mais c'est pour dire la création n'est pas terminée. Elle est dans un processus, et c'est pour ça que Paul va dire la création est dans les douleurs de l'enfantement. C'est-à-dire que ça viendrait presque utilement, mais vous l'avez déjà fait en rappelant « Je viens bientôt », relativiser le fait de « Attention, on n'est pas arrivé, et qu'est-ce que ce serait triste si on était déjà arrivé dans la Jérusalem nouvelle ?» Elle est toujours proche, il faut toujours combattre pour elle, qu'elle soit au niveau politique ou au niveau individuel de l'existence, mais ce qui garantit la nouveauté, c'est qu'il y a encore du chemin à faire. C'est toute la logique de la Bible, vous avez raison, d'une mise en mouvement et d'une ouverture à la nouveauté, de regarder vers l'avant plutôt que de regarder vers l'arrière. Ouais. Et ce thème du nouveau est très présent. Je trouve que c'est pas mal qu'on finisse par là.
Oui. Une question. Finalement, il recommande plutôt un cheminement individuel ou un cheminement collectif ?
Alors, vous voyez, Paul, il prêche un cheminement individuel, mais qui n'est pas alternatif de, par exemple, l'Apocalypse, qui dit « vous êtes une communauté qui a un témoignage à porter dans la cité. » Ou là, vous êtes une communauté qui a un témoignage à porter au sein de l'Empire romain. Et à l'époque de Paul, il ne s'agissait pas d'une lutte politique, hein, enfin, pas au sens, parce qu'il n'était pas imaginable de renverser l'Empire romain. Mais au moins, vous êtes un lieu, enfin, on pourrait essayer pour reprendre et là c'est communautaire pour le visionnaire de l'Apocalypse, le Jean de Patmos, c'est vous êtes un lieu qui peut offrir la possibilité d'une résistance au moins spirituelle aux logiques et aux valeurs de l'Empire, ou on va dire aujourd'hui aux valeurs, aux logiques dominantes. Hein, de façon à ce que vous qui êtes dans cette espérance, vous puissiez vous encourager mutuellement, vous soutenir mutuellement, et puis garder votre intégrité et votre espérance. Parce que sinon, vous faites partie des tièdes qui sont dénoncés. Voilà.
Ben Paul, il s'adresse à des collectivités.
Alors, il s'adresse à des collectivités, mais il vise plus l'individu. C'est-à-dire que Paul, il a peu de... Mais c'est pas alternatif.
Oui, mais enfin, c'est des individus dans une collectivité. Vous... Même, et puis les temps, en plus, alors, les temps, le christianisme.
Ouais. Alors, vous avez tout à fait raison. En particulier pour les Galates, il s'adresse à une collectivité qui est en risque de retomber dans un esclavage et une soumission, qui est en risque de rester dans l'ancienne création. Ouais.
Oui. On peut pas dire que, on pourrait dire que l'Apocalypse, on peut mettre ça en parallèle avec la résurrection.
Oui, complètement.
Parce que quand on dit Jésus m'a ressuscité, c'est-à-dire
ouais.
Il me ressuscite chaque jour.
Oui, exactement. Et, ouais.
La résurrection, c'est du chaos sort une nouvelle créature.
Oui, absolument.
Et, oui. Et ressusciter, ça veut dire être debout, se remettre debout. Ouais, hein. Ouais. On peut mettre ça un peu en parallèle.
J'ai rien à rajouter. Tout à fait d'accord.
Merci.
C'est vraiment ça. C'est d'ailleurs pour ça, de nouveau, que c'est bien l'agneau ressuscité qui est au milieu de la Jérusalem céleste. Il dit, il est une des autres figures de...
Merci.
Écoutez, je vous souhaite un bon été. Je vous remercie pour votre fidélité, votre participation. Voilà. C'est bon.